Cette semaine, à Québécois, on parle de la Journée internationale de la femme, puis on va parler des médecins. Bienvenue à épisode 23 de Québécois. Bonjour Charles.
Salut Gabriel.
Et c'est comme la chanson dit en anglais, « It's the most wonderful time of the year ».
Je l'attends.
On l'attendait depuis longtemps.
C'est comme un second Noël.
Je pense que c'est la Journée internationale de la femme. C'est un des sujets à lesquels on a fait référence souvent depuis qu'on fait notre podcast. Puis on est finalement rendu là.
Puis le pire, c'est que ça devrait même pas exister une journée comme celle-là. De la même façon que la Journée de l'homme est inexistante, on devrait juste pouvoir aborder plein de sujets tout le temps sans avoir besoin d'un prétexte.
Moi, j'ai eu une réflexion cette semaine. Je suis tombé dans le métro sur une madame qui avait une pancarte. Puis sur la pancarte, il y avait quelque chose d'écrit à l'effet de genre « Les droits des femmes, c'est des droits humains ». Puis moi, dans ma tête, j'étais comme « Mais oui, c'est parce que tous les droits humains sont des droits de femmes, puis c'est aussi des droits d'hommes. On a tous les mêmes droits. » Fait que c'est bizarre. Puis je suis vraiment tanné là, des espèces de speech à la genre « On est capable parce que je suis une femme. » Puis tu sais, comme aux Oscars dimanche, c'était ça. Là. Il y a plusieurs femmes qui ont donné des speeches genre que « C'est We are strong, independent women. » Et il y a-tu plus cliché que ça maintenant? Je suis plus capable. Je suis plus capable. I can't. Mais je n'irai pas aussi loin à dire que c'est inutile. Je l'ai déjà mentionné. Là. Il y a des pays où les femmes, ils ont vraiment... Ils sont vraiment sous-classés, là. C'est un fait, là.
À cet égard-là, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Au Québec?
On n'a pas le problème au Québec. Je regrette, là. C'est les femmes qui règnent en ce moment, OK? Les dernières statistiques démontrent, là, qu'en gestion dans le monde corporatif, les femmes sont maintenant majoritaires. Fait que c'est un phénomène qui a commencé depuis très longtemps, dans le sens où, petit à petit, ils sont devenus majoritaires dans les universités, dans toutes les sciences, dans les programmes de doctorat, les programmes de maîtrise.
65% des universités.
Et hop, 65%. Ils terminent l'école plus, ils ont plus de succès scolaire, et maintenant, ils ont plus de succès corporatif. Ça commence, là. On n'est pas...
C'est sûr que un amène nécessairement vers l'autre, et tant mieux pour les dames si leur santé financière s'emporte mieux.
C'est pas le
problème,
reproche.
C'est que la disparité maintenant va dans l'autre sens, et on n'a jamais entendu parler de féministes qui voulaient...
C'est ça, that's the problem, OK, là, qu'en ce moment, tout ça a été shifté, on a complètement laissé de côté les hommes de ce point-là, ou l'éducation des hommes, ou la condition des hommes, pour se concentrer sur celle-là des femmes. Puis si tu as le malheur de dire que les hommes ont des problèmes, comme, oh, je sais pas, 70% des suicides sur la planète, c'est des hommes, hein? Les petits problèmes. Les alcooliques, la plupart, c'est des hommes. Les drogués, la plupart, c'est des hommes. Les prisons, c'est rempli à 90% d'hommes. Il y en a, là. Il y a des problèmes sociaux sérieux qu'on doit adresser, mais tant que ça sera pas concernant des femmes, on n'en parlera même pas parce que c'est pas politiquement correct.
C'est-à-dire que ça, c'est non seulement ça, mais qu'il y a une forme de célébration présentement dans les médias.
Oui.
Justement, il y avait la page de l'Université de Montréal qui célébrait le fait qu'il y avait 65% de la communauté universitaire qui était féminine. Mais je suis comme... Si c'était masculin qui était à 65%, vous crieriez à...
Mais c'est ça, c'est hypocrite. C'est hypocrite! 65%, là, c'est pas l'équité. On est vraiment pas à la bonne place, là. À 65%, c'est parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est arrivé. Moi je vais accorder, là, qu'il y a certaines choses que probablement qu'il faudrait adresser au niveau des femmes. Il y a par exemple, une étude qui a été sortie très récemment, puis là, il faudra que je la retrouve pour la mettre dans les liens en bas de notre émission. où, puis ça, c'est une étude qui a été faite par, une femme, puis j'essaie de me souvenir si c'était à Tufts ou à Harvard, en tout cas, c'était dans une des grosses universités américaines. Puis ce qu'elle a découvert, c'est que dans les positions de leadership, okay, même les femmes, quand ils viennent à juger la compétence des personnes, ils jugent que les femmes font moins bien la job. Okay? Puis là, ils ont fait une étude du genre où ils ont donné des profils à des gens. Puis là, il y avait deux profils identiques. La seule différence, c'est que le premier profil, il présentait comme un homme. Puis le deuxième profil, il présentait comme une femme. Puis la majorité des gens, hommes et femmes confondus, quand ils savaient que c'était une femme, ils trouvaient que la personne était plus incompétente que l'homme à des critères exactement les mêmes. Fait que ça serait pour moi, si j'étais une femme, ça serait vraiment le genre de truc que je voudrais adresser. C'est pas des fausses affaires qui n'existent pas, mais ça, on peut le voir. C'est, statistiquement, les CEO de compagnies, il y en a moins qui sont des femmes. Puis dans les grandes positions de leadership, il y a un désavantage. Mais c'est à peu près tout, là. Tout le reste, là, c'est pas mal égal, point de vue de travail, puis de salaire, puis la disparité, elle est plus là, là. Elle n'existe pas.
C'est-à-dire, il y a une disparité, mais elle résulte des choix individuels des gens.
Ah, mais c'est pas une disparité, ça. Tu sais, si tu choisis d'avoir des enfants, puis d'aller en congé 4 fois dans 5 ans, puis que ça affecte ta carrière, là, veux pas, tu manques 4 ans d'expérience, à peu près. Mais tu peux pas...
Ça, tu vois, c'est un enjeu qui n'est pas discuté dans l'espace public. Mais les femmes ont des vies compliquées, plus que les hommes, qu'il faut qu'elles aient trouvé toutes les bonnes réponses à des questions fondamentales avant à peu près 30 ans.
Oui.
J'ai des amis qui sont sur Tinder, là, début trentaine, et ils m'en parlent et c'est vraiment un triste spectacle.
Mais comment ça se fait que c'est pas pour ça qu'ils sont sortis dans la rue cette semaine? Ça, t'as comment, c'est un problème. Puis j'ai l'impression qu'on l'évite. On n'en parle pas. Puis,
c'est une réalité qui est difficile. C'est difficile de faire face parce que un principe fondamental de l'économie, c'est que choisir, c'est renoncer. Alors, on a inculqué aux jeunes femmes qu'elles étaient des superwomen, des strong independent women, et qu'elles pouvaient tout faire, c'est-à-dire avoir la grosse carrière, avoir la vie de famille, avoir la vie avec les amis, avoir des loisirs. J'ai l'impression que les hommes savent plus intuitivement qu'ils vont devoir renoncer à certaines choses. Oui. S'ils veulent la grosse carrière, ils vont nécessairement devoir couper sur d'autres aspects de leur vie.
Oui.
Et on regarde, on mesure les statistiques sur le bonheur et sur le bien-être, et les femmes sont misérables en ce moment. Le taux la consommation d'antidépresseurs chez les femmes, vraiment, est... très inquiétante. Le taux d'insatisfaction face à leur vie est au plus bas depuis les années 50.
Wow.
Et malgré le fait que leur liberté économique n'a jamais été aussi élevée. Alors,
c'est pensez-y bien, ça.
C'est un pensez-y bien parce qu'au final, c'est quoi qui va t'apporter la satisfaction dans la vie? Le profil des femmes très performantes, là, elles torchent à l'université, torchent dans les cycles supérieurs, torchent dans leur job, montrent très rapidement les échelons, encouragé par les gens qui veulent remplir leur quota pour bien paraître. Et juste parce que ces femmes-là torchent, tout simplement. Et ces femmes-là arrivent dans la trentaine, disent « Mais pourquoi est-ce que je me ferais chier 80 heures à la semaine alors que je pourrais avoir une famille et une vie équilibrée? » Alors elles lâchent ça, puis elles vont trouver une job de 9 à 5. C'est une histoire qui se répète. Et une femme qui n'a pas d'enfant au début de trentaine, là, puis qu'elle est sur le marché du dating, parce qu'elle a soit été trop dans sa carrière, alors trop dans le fun. Si elle commence à être sérieuse au début de trentaine, là, elle arrive sur un marché qui n'est vraiment pas à son avantage.
Pas du tout. Ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants.
Les hommes qui sont encore là ont le choix. Une femme qui veut des enfants là, ou une un peu plus jeune, d'ici 5 ans, là.
Ouais, c'est ça.
Les femmes ont une vie compliquée parce qu'elles doivent prendre des décisions dans un laps de temps restreint. Les hommes peuvent rester imbéciles jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans.
Même plus.
Ils vont s'en sortir pareil. Mais une femme a un impératif biologique. Hein? Quand on parle de l'horloge biologique,
c'est une vraie chose.
Hein? Si une femme veut une famille, il y a une finitude dans le temps. Ça arrête à un moment donné. Ça, c'est un aspect qui est une source de grande détresse.
Ouais, non, je
Et ce qu'on observe, les femmes sont misérables en ce moment.
Puis là, si tu ajoutes à ça le fait que l'augmentation des taux d'infertilité avec tout ça, que ça devienne de plus en plus. Moi, la quantité de personnes qui, dans la trentaine, tu sais, puis là, je te parle début trentaine, même pas la mi-trentaine, des femmes que je connais qui ont été obligées d'aller pour de l'assistance, pour juste pour se faire inséminer, puis des choses comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, là. Puis ça s'en va en augmentant. Fait que, si on met tout ça ensemble, là, je pense qu'on n'a peut-être pas fini là, d'avoir de ces problèmes-là. On a il y a toutes sortes de statistiques en ce moment par rapport à les taux d'hormones, puis comment que ça diminue depuis dans les dernières 35 ans. C'est épeurant. Là,
la testostérone chez les hommes est à son plus bas depuis les années 70.
30% de différence qu'il y a maintenant. Un homme de 40 ans aujourd'hui a 30% de moins de testostérone dans son corps qu'un homme de 1987.
On boit trop de lait de soya, Gab.
Hein?
On boit trop de lait de soya.
Ouais, ça n'a pas rapport. Je me suis fait traiter de soy boy cette semaine sur Facebook.
Ouais, c'est ça, écoute,
là, j'étais comme sérieux, là. Wow, toi, tu me connais vraiment pas, là, mais bon. Tout ça pour dire que... Anyway.
Gab, là, c'est 300 livres de muscles. Beaucoup de choses qui commencent par international sont liées au communisme. Il y a un parallèle, on l'avait mentionné dans le podcast sur le féminisme, justement, le parallèle entre ce mouvement-là et le marxisme culturel. Si on vient au début de la révolution bolchevique, ça a parti en février. La journée internationale de la femme en Russie, c'était une journée nationale, là, c'était une fête nationale. Et ça, c'est cette journée-là, en 1917, qui a déclenché la révolution soviétique. Et c'est souvent les femmes, en fait, qui font ça. Même la Révolution française, ça avait commencé par des femmes insatisfaites de la quantité de nourriture qui était disponible. Il y a comme une espèce de mouvement de fond qui fait en sorte que les femmes sont capables de faire de grands changements lorsqu'elles s'unissent. Le problème, c'est que présentement, c'est comme si il y avait à la fois un mouvement revendicateur pour avoir plus de liberté, mais en même temps un autre mouvement qui vient nier la réalité biologique de la féminité.
Puis ça, on l'avait dit durant... En tout cas, moi, je me souviens d'avoir mentionné ça durant le podcast qu'on avait parlé du mémo de James Damore à Google, où renier le fait que les hommes puis les femmes sont pas pareils, puis essayer de nous faire croire que tout le monde est égal, puis qu'il n'y a aucune différence, puis que femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, il y a des limites, là. Moi, je crois plus à ça, là. C'est pas politically correct, mais tu sais, c'est un fait. On n'est pas fait pareil. S'il y avait un extraterrestre qui atterrissait sur la planète aujourd'hui, là, il pourrait très clairement déterminer qu'il y a deux genres sur la planète. OK? Lui, il en verrait juste deux, là, malgré que le gouvernement essaie de nous faire croire qu'il y en a une soixantaine. Mais, tu sais... Les différences, elles sont là. Puis il y en a des différences physiques, des différences psychiques. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Puis aussi longtemps qu'on va les nier, on va jamais être capable de vraiment rejoindre les deux sur un même pied d'égalité.
C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est malheureusement devenu très anti-science.
Ouais.
Et si t'es pas d'accord avec ça, Gab, je t'annonce que t'es un nazi.
Bon, ben tant pis.
c'est ce qu'on a dit à Christina Hoff Sommers cette semaine. Prof de philo, elle travaille pour la chaire de recherche American Enterprise Institute, c'est une féministe, elle a écrit plusieurs livres là-dessus, elle se fait traiter de nazie et de fasciste parce qu'elle affirme, attention, les hommes et les femmes sont égaux, mais différents. elle donnait une conférence, il y a des étudiants là, qui sont allés crasher ça, de la même façon qu'il y avait d'autres antifas qui sont allés crasher une conférence avec le YouTuber Sargon of Akkad. Il y a d'autres personnes, l'Université Queen's en Ontario, qui sont allées crasher une conférence de Jordan Peterson. Tous ces mouvements, toute cette mouvance de gauche qu'on a un peu parlé dans le podcast sur les Antifa, vraiment, se militarise. Là. Celle que. Il y a une des jeunes femmes qui a été arrêtée à l'Université Queen's qui avait du fil de métal, là, du, je ne sais pas c'est quoi en français, du Girth Warrior pour étrangler. C'est très, très grave. Si on considère que Jordan Peterson est controversé, c'est quoi ça, des jeunes armés dans une université?
Ouais, ça tient pas à route.
Moi, je suis grandement préoccupé. Ce mouvement-là, présentement, on dirait qu'il y a une forme de dissonance cognitive.
Oui, clairement. Ouais, ouais. Tout ça, là, pour, parce qu'on ne veut pas entendre ce que l'autre a à dire. Puis c'est ça le problème. Le, tout ce que ces gens-là veulent, là, c'est juste avoir une conversation. C'est très civil. Le cas où tu parlais tantôt, là, où ils ont capoté là, parce qu'ils ont parlé de les, de que les hommes et les femmes avaient des similitudes puis que tout le monde se traitait de nazi. Dans ce cas-là, c'est comme les gens étaient très civilisés, la conversation était très agréable, les gens ils parlaient de façon raisonnable, il n'y avait personne qui criait, puis là, tout d'un coup, ça se lève puis ça s'énerve. Parce que la personne, elle n'a pas aimé ce que le présentateur ou la conférencière disait à ce moment-là. Ben là, voyons donc, là. Ouais.
Les universités prennent pas les mesures pour protéger la liberté d'expression. Fait qu'au final, la journée du 8 mars, je trouve que on passe à côté vraiment de l'essentiel. T'sais, l'essentiel, là, si on voudrait parler des enjeux féminins, il y en a plein. On pourrait parler du mouvement MeToo. T'sais. Oui, on va parler du mouvement MeToo. On a une population là, difficile à estimer d'hommes morons. T'sais. Oui, ils existent, mesdames et messieurs, des imbéciles qui ont un rapport à la sexualité qui est pour le moins dysfonctionnel. Hein? Ils existent.
Malsain, même,
mais là, c'est une conséquence un peu... Moi, j'avais entrevu, mais là, qui commence à se concrétiser, c'est qu'il y a un nombre croissant d'administrateurs qui refusent de mentorer des femmes par peur de se faire accuser injustement. Quand on amène une espèce de tribunal collectif sur la place publique et qu'on évacue le code de procédure criminelle puis qu'on oublie la règle de droit... Ça devient une chasse aux sorcières, et ça, c'est la dérive du mouvement MeToo, et ça, ultimement, ça décrédibilise les femmes.
Je pense qu'on va souhaiter tout le monde une bonne journée internationale de la femme. Des femmes, plutôt.
Rien n'en a-tu assez parlé, les médecins, cette semaine?
Il en parle beaucoup, hein.
Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a des parallèles à faire avec le féminisme, ou encore avec les syndicats. Ce sont tous des groupes qui partaient avec des revendications légitimes, mais qui, à force de pousser, finissent par se délégitimiser face à la population et à perdre leurs appuis. Fait que les médecins, là, on en a-tu entendu parler cette semaine? Parce qu'ils commencent à avoir un outrage là, de la population face à ce qu'ils ont obtenu au fil du temps. Ce qui était parti de demandes légitimes relativement au rattrapage salarial face aux médecins des autres provinces est devenu quelque chose qui était perçu comme abusif.
Ouais, mais il y avait une époque où il était vraiment dans le bas du peloton. Là.
Oui, ça c'est vrai.
Il y avait un rattrapage à faire, puis je pense que la population était plus ou moins d'accord. Mais là, tu sais, quand tu t'attends 15-20 heures à l'urgence, puis tu as de la misère à obtenir des rendez-vous, puis il faut que tu attendes des mois pour avoir des spécialistes, puis là tu te tournes de bord, puis tu les payes des salaires à plus savoir quoi en faire, il y a comme une perception d'injustice. Puis ça c'est sûr que la population, ils vont pas aimer ça, là, de voir qu'ils sont payés full pin. Puis nous autres, qu'on est là avec notre petit pain à côté. Là.
Et ce qui est intéressant, j'ai colligé quelques chiffres sur l'évolution du nombre de médecins puis par rapport à la population, ainsi que sur le nombre d'actes qui sont... effectué sur les patients. Mm-hmm. Ça vient de StatCan, de l'Institut canadien d'information sur la santé, ainsi que du Collège des médecins.
OK, wow. Bon.
Donc, c'est des sources assez solides. Là. Ce que je vous dis, là, c'est factuel. Au Québec, croyez-le ou non, on a de loin plus de médecins par 100 000 habitants que dans le reste du Canada. De loin. Je donne un exemple. En 1996, au Québec, nous avions à peu près 104 médecins par 100 000 personnes. Le reste du Canada est à 95.
Oh, wow.
Donc, 10 médecins de plus par 100 000 habitants. Et cet écart-là, c'est maintenu là, jusqu'en 2010. Là. Puis, en même temps, en 2010, on regarde, on est à peu près à 110 médecins par 100 000 habitants. Le reste du Canada est autour de 103. Donc, durant tout ce temps-là, on a plus de médecins. Mais, surprise, on regarde, pourcentage de la population, 100 médecins de famille, au Québec, là, on se maintient autour de 25%. Le reste du Canada est à 15%.
Donc,
en pourcentage, on a plus de médecins per capita, mais il y a moins de gens qui ont un médecin de famille. Comment t'expliques ça? Ben, c'est évidemment au niveau de la productivité.
Ben, hein? Où il y a moins de médecins de famille?
Nombre?
Hmm? Où il y a moins de médecins de famille?
Au Québec, on a le plus de médecins de famille.
Là, tu me parles... Là, ces statistiques-là, c'est le nombre de médecins ou le nombre de médecins de famille?
Ça exclut les spécialistes, là. Juste les gens okay. qui sont là pour hein, les généralistes.
Okay.
Les petits bobos du quotidien.
OK, mais c'est...
On récapitule, là. Per capita, hein, par 100 000 habitants, c'est le nombre de médecins de famille au Québec dépasse beaucoup. À peu près 10% le reste du Canada.
Wow.
Le pourcentage de la population sans médecin de famille hein, au Québec, les gens de 15 ans et plus, 25% versus 15% le reste du Canada. Alors, la cause de ça, moi, ça m'apparaît clair que c'est la productivité des médecins.
Wow.
On regarde. Durant une semaine type, en 2010, en Ontario, hein, un médecin voyait 117,24 patients. Dans Saskatchewan, c'était 124, Colombie-Britannique, 115, ça tourne autour de entre 110, 120, partout en Canada.
Ouais.
Au Québec, on était à 80.
Mais ça veut dire aussi que potentiellement, ces médecins-là passent moins de temps avec leurs patients. Si t'en passes 124 versus si t'en passes 80, t'en as passé 44 de plus, fait que t'as peut-être coupé les coins ronds là, avec tes patients si t'en vois trop.
Ben, ça, c'est difficile de se l'expliquer ouais, précisément parce que c'est évidemment des questions complexes, mais j'ai d'autres chiffres pour essayer de nous éclairer
parce
un petit peu.
Parce que, tu sais, on le sait, là, c'est pas parce qu'on ne peut pas vraiment établir de cause encore. Là. On a juste les chiffres. C'est intéressant, par contre.
Oui, mais ça veut dire que c'est ce que Barrette voulait faire quand il était avec la CAQ en 2012, si on se souvient bien. Il voulait un médecin de famille par Québécois. Puis c'est sa campagne. Il l'a continué avec les libéraux, avec un niveau de succès mitigé.
Mais moi, je veux dire, par contre, j'ai été 20 ans sans médecin de famille et j'en ai enfin un maintenant. Fait que moi, quand je regarde ça, je me dis, ouais, ça a marché, j'en ai un maintenant. Puis j'ai attendu longtemps. Ça fait 20 ans, là, pas de farce que j'avais pas de médecin de famille. Je sais, c'est anecdotal, puis ça veut rien dire, mais t'sais, moi, personnellement, moi, j'ai l'impression que ça a marché pour moi, t'sais, au moins.
Ben, je suis content pour toi. J'en ai toujours pas. En même, moi, j'en ai pas nécessairement besoin dans l'immédiat, mais j'avoue que ce serait pratique pour faire des suivis. Mais si on vient, donc, on essaie de ramener ça aux individus, parce que c'est les gens, ultimement, qui offrent le service. C'est pas des machines.
Ouais.
On a les chiffres à partir de 2005 pour ça. Le nombre de médecins généralistes là, au Québec a augmenté en 2005 et 2013 de près 8%. Donc, il y a plus de médecins, mais le nombre d'actes médicaux par omnipraticien a baissé de 25%. Donc, c'est-à-dire qu'on a des médecins qui sont payés de plus en plus cher, hein, parce que si on se souvient, les médecins sont souvent rémunérés à l'acte. Hein. Ils peuvent, si on est à l'hôpital, c'est à l'heure. S'ils sont en clinique, hein, c'est à l'acte. Et en 2005, le coût à l'acte médical, c'était 34 $. Et en 2013, il était 58. Là, je pense qu'on a franchi la barre des 70. Voire même, si on voit dans les spécialités, là, ça peut aller en haut de 200. Là, mettons, en psychiatrie, là, c'est autour de 220 $ l'acte. Donc, ça monte assez vite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue économique, ça fait parfaitement du sens que des gens qui gagnent plus décident de travailler marginalement moins afin de maintenir un même niveau de revenu sans nécessairement affecter leur qualité de vie. Vous savez, avec le même niveau de travail, ils ont les mêmes conditions. Hein, économiquement, là, ça fait du sens. Gagner de plus en plus cher. Mais s'ils n'avaient pas besoin de cet argent-là, ils pouvaient se mettre de travailler moins. Ce qui fait que les médecins voyaient chacun de moins en moins de patients. Et c'est ce qu'on observe là. Ça, c'est un fait objectif. Si on met l'indice de 100 en 2005, hein, en 2013, ils voyaient 76. Hein. Il y a une diminution de près 25% des actes médicaux par omnipraticien sur une période là, de à peu près 10 ans.
Mais ça, c'est comme dans la nature. Moi, pareil, si tu me payes plus pour mon travail, mais tu sais, si tu doubles mon taux horaire, je vais faire peut-être la moitié des heures que je faisais avant.
Ça va dépendre de la vocation. Parce que historiquement, être médecin, c'était avoir une vocation.
Ouais, ben, la vocation, là. Ça, c'est des leftovers de notre époque catholique.
Oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas grand monde qui travaille pour la vocation de ce temps-ci. En tout cas, puis moi, tu sais, je travaille pour une compagnie financière. C'est pas une vocation, là.
Ah non, je suis d'accord avec toi que les gens vont répondre à leurs incitatifs, mais il fut un temps où, quand ce système-là était mis en place, on partait de la prémisse que les médecins faisaient un peu une forme de don d'eux-mêmes, alors qu'aujourd'hui, c'est un emploi comme les autres.
Et non, en fait, c'est une méthode pour avoir de l'argent. Moi, ça ressemble de plus en plus à ça. T'sais, il y a quand même des médecins qui sont là parce qu'ils veulent... Ils ont, comme tu dis, une vocation ou un désir de faire du bien pour l'humanité. Mais, tu sais, dans les faits, quand on regarde, t'as vraiment l'impression qu'il y en a, ils font du cash, là.
Oui, c'est sûr. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que présentement, on a un système public, hein? On a un budget d'à peu près 100 milliards au Québec. La moitié de ça va à la santé et aux services sociaux. Et en grosse partie, va au système hospitalier. Ça coûte à peu près 220 millions par jour pour faire rouler le système de santé au Québec. Alors là, on a un problème parce que on a Québec solidaire qui fait des... On y reviendra parce qu'ils font beaucoup d'annonces. On a des partis politiques qui promettent sans cesse d'ajouter de l'argent, de refinancer, machin truc. Mais clairement, combien d'argent de plus est-ce qu'il faudrait mettre dans ce système-là? Manifestement, le problème semble davantage venir de l'organisation, puis de la structure, puis de la façon dont c'est administré, et de la gestion des incitatifs pour les médecins. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on va entendre parler durant la campagne, mais méfiez-vous, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il va régler tous les problèmes en santé, il dit n'importe quoi. C'est sûr que c'est n'importe quoi. À moins qu'on s'attarde aux causes fondamentales de l'organisation du travail. Et l'une d'elles, c'est la forte syndicalisation de la profession médicale.
Ça, tu me... J'anticipais que c'est là que tu t'en allais.
Oui, hein?
C'est
trépidiste ta chaise.
Mais c'est parce que c'est énormément compliqué pour un hôpital ou un service médical de changer quoi que ce soit dans ces processus à cause, justement, de tous les syndicats avec lesquels ils doivent faire affaire.
Et les syndicats qui tirent chacun de leur bord pour la couverte. Ben, le collège des médecins qui se bat avec les pharmaciens, avec les infirmières, pour pas que les super-infirmières aient des tâches que les médecins, honnêtement, pourraient ne pas faire et qu'on pourrait confier à des gens qui chargent un petit peu moins cher. Ultimement, c'est le payeur de taxes qui passe à la caisse. Ouais. C'est pas... j'ai toujours beaucoup de malaise, justement, quand ces groupes-là viennent négocier avec le gouvernement. Parce que il négocie pas avec le gouvernement, il négocie avec nous, avec la population. Et 50 milliards par année en système de santé, c'est incompréhensible. Et les coûts vont continuer d'augmenter avec le vieillissement de la population.
On n'est pas sorti du bois.
Gaétan Barret a pris le pari qu'en centralisant les opérations, il réaliserait des économies d'échelle. Ça reste à voir. À date, les résultats sont assez mitigés. Là, je pose des questions, les amis, en système de la santé. Ils me disent tous que c'est le chaos. Et qu'il y a beaucoup de départs parce que les gens sont épuisés, sont tannés, ça fonctionne pas.
Ouais, mais ce genre de restructuration. Puis là, je veux pas paraître comme si j'étais à la défense de Gaétan Barrette, parce que je suis vraiment pas là. Mais quand on parle d'un système de santé provinciale, tu reviens pas ça de bord sur un 25 cents. Si les changements qu'il fait maintenant. On verra pas l'effet pour 5-10 ans. Puis c'est ça le problème, en fait, parce qu'il sera... Si c'est bon, là, ben Gaétan Barrette, il sera long gone, il sera plus dans la politique, même. Puis si c'est mauvais, là, on va peut-être pas s'en rendre compte à temps. Puis ça pourrait avoir le potentiel d'être beaucoup pire avant que ça aille mieux encore. Le temps de se revirer de bord encore une fois.
Mais c'est... Présentement, ce qui va être difficile, ça va être justement de déterminer si c'était une bonne ou une mauvaise affaire, toute sa réforme avec les CIUS.
C'est ça, oui.
Moi, mon intuition, c'est que centraliser, c'est généralement une mauvaise chose parce qu'on finit par évacuer du front line, des gens qui sont là et qui font la job, tout le support qu'ils ont en temps normal. Et on envoie ça en d'autres centres, puis là, ça fait en sorte que les gens se retrouvent un peu isolés. Moi, j'aime beaucoup la décentralisation, puisque d'une part, ça accroît l'imputabilité. Soudainement, les gens se retrouvent dans une situation où c'est eux, c'est leur centre, mm-hmm, c'est géré localement. Ils ne peuvent pas remettre la faute à une autorité lointaine. Et les gestionnaires sont plus proches de leur centre. Donc, ils sont à même de constater les effets plus rapidement.
Et avec toute la construction des super hôpitaux qu'on a, puis on n'est pas sur la veille de voir ça.
Mais ultimement, avec un système de santé, il va falloir... On dirait qu'on a un peu la pensée magique au Québec, mais ouais. C'est toujours un peu cliché. Là, trois critères, tu peux en avoir deux. Tu peux avoir la qualité, l'universalité, ou au fond, l'accessibilité en matière de prix. Hein, tu peux...
ouais.
Là, trois critères, là, tu peux en choisir deux. Au Canada, on a pris la qualité puis l'universalité.
Ouais.
Hein? Mais le prix, là, ça coûte super cher. Mais on le voit pas, mais ça passe par les impôts. Mais ça coûte une fortune.
Ouais.
Et comme il faut que tout le monde ait un service uniforme, puis on inclut là-dedans des dépenses qui n'ont honnêtement pas d'allure, là, ça crée inévitablement des manques. Hein? Il y a des pénuries, et il y a des gens ultimement qui attendent beaucoup trop longtemps pour avoir du service. Et les médecins sont dans une situation idéale. Parce qu'ils ont le gros bout du bâton pour négocier. Clairement. Ils ne sont pas contents, ils peuvent aller ailleurs.
Ils peuvent aller n'importe où, en fait.
Et c'est pour ça que, personnellement, j'aimerais ça que le gouvernement... Ça, c'est Charles là, qui dit ça. J'aimerais ça qu'on arrête de négocier avec les médecins et qu'on leur permette de compétitionner entre eux plutôt que contre nous. Tu serais-tu que c'est pas beau? On l'a vu avec les chirurgies des yeux au laser. Il y a quelques années, là, c'était 20 000 $ l'œil. Ça l'a attiré plein d'optométristes qui ont dit hey, « je vais aller me former là-dedans, c'est payant. » Et là, ils ont commencé à compétitionner entre eux pour la qualité du service, les garanties.
Le prix a vraiment baissé. Mais c'est vrai que la technologie a beaucoup changé aussi, là, on s'entend.
Ce qui a incité la technologie à évoluer, c'est parce qu'il y avait un marché pour ça. La compétition, c'est ce qui protège les consommateurs. On l'a vu avec le salaire minimum, on le voit aussi avec le système de santé. Et les médecins, c'est le premier syndicat de professionnels de l'histoire de l'humanité. As-tu déjà lu le serment d'Hippocrate?
Ah ouais, non, c'est vieux.
C'est vieux, cette histoire-là. Le serment d'Hippocrate a été écrit 20 ans après la mort d'Hippocrate.
Ouais.
C'est les étudiants qui l'ont écrit parce que pour Hippocrate, n'importe qui pouvait apprendre la médecine. Il fallait juste que tu aies la volonté, t'assoies ton cul sur une chaise puis t'écoutes.
Ouais.
Là, ses apprentis, 20 ans après sa mort, ont réalisé qu'il y avait beaucoup trop de médecins et ont commencé à vouloir mettre des barrières à l'entrée. Et c'est ce même code-là qui est en vigueur depuis tout ce temps-là. Le serment d'Hippocrate, là, oui, il y a des beaux concepts de sauver la vie du patient. Mais c'est aussi un serment qui est un contrat de non-concurrence entre les professions médicales. Si vous regardez, là, les chirurgiens ne peuvent pas faire du diagnostic médical, puis les médecins qui font du diagnostic ne peuvent pas faire de chirurgie. Il y a des restrictions sur qui peut apprendre, avec qui et de quelle façon. C'est une convention collective de professionnels.
Wow.
Et ça, c'est leur levier pour négocier avec le gouvernement parce qu'ils créent une rareté artificielle. Fait qu'au final, les médecins, là, c'est toute une paire de manches parce qu'ils ont tout le pouvoir de négociation. Ils ne sont pas assujettis à aucune forme de compétition. Le gouvernement ne semble pas être en mesure de mettre en place une structure d'incitatif suffisant pour les amener à travailler davantage parce qu'on l'observe, les médecins québécois travaillent moins que dans le reste du Canada. Voit moins de patients. Et ultimement, le nombre de patients par jour, hein, c'est ça le nerf de la guerre. Parce que si vous attendez, c'est parce qu'ils ne voient pas assez de monde chaque jour. Beaucoup moins que dans les autres provinces.
On va vous remercier encore une fois d'être avec nous cette semaine. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. On vous rappelle toute notre information. On va commencer avec notre site web, québécois.ca. Vous pouvez avoir accès là-dessus à comment vous inscrire à nos balado-diffusions sur iTunes, puis Stitcher, puis tous ces trucs-là. On a aussi notre page Facebook, Québécois Balado. Et on a aussi, ça vous tente de glisser un petit mot vocal, on a notre ligne téléphonique 1-888-458-4448. 1-888-458-4448. Fait que, bonne semaine, Charles!
Bonne semaine, puis continue de chialer, Gab. C'est bien ça.
Je suis capable.
petite parenthèse pour l'Université de Montréal, mini-parenthèse, il y avait un litige devant qui aurait pu se rendre devant les tribunaux parce qu'il y a une association étudiante qui a référé à l'administration de l'université comme étant les joyeux naufragés avec Gilligan.
Quoi?
Et là, l'administration avait fait une injonction pour les sommets d'arrêter de les référer par les joyeux naufragés. Et une entente hors cours a été trouvée. Nous pouvons maintenant être... On peut passer à autre chose. Merci à l'Université de Montréal d'élever le discours.